Time Time Sport.
Eh oui, ce soir, une petite dédicace, allez, à Fabrice et aussi à Alex, grand amoureux de l'Olympique de Marseille et du club de la capitale qui est le Paris Saint-Germain. Avec moi, pour m'accompagner ce soir, on aura la ravissante Alison Nkunku. Comment ça va, Alison?
Ça va très bien.
Ah ben super, et ravi d'être avec toi sur ce plateau, accompagné de grands messieurs, le coach Tollet. Comment ça va, Claude?
Ça va, impeccable, content d'être là.
Et Claudio avec nous. Eh oui, et aussi Yacine Bouali. Comment ça va, Yacine?
Toujours content, mais bien, c'est bien de savoir que le relais Dakar se trouve en Arabie Saoudite.
Eh ouais. Première. Que veux-tu? Eh bon, on va s'attarder tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, avec notre invité qui n'est autre que Xavier de Sultré. Ça, c'est promis. On prend la direction de Barcelone et de la Catalogne.
Time Sport, le ras-le-bol.
Eh oui, grand amoureux là aussi, des petites dédicaces qui pleuvent ce soir sur l'antenne de Beurre FM avec Raphaël, grand amoureux de ces Blaugrana justement. Que s'est-il passé du côté de Barcelone? Nombre de personnes se posent cette question, comme attendu depuis la fin de la matinée de ce lundi. Valverde a été démis de ses fonctions, l'entraîneur du Barça, eh oui, ce lundi soir. Et c'est Setién, 61 ans, qui a été choisi pour le succéder. Il a signé jusqu'en 2022, Alisson. Une page tourne du côté du FC Barcelone, ce club catalan, voilà, a pas poursuivi cette aventure avec son entraîneur qui est Valverde. Et l'état-major du club catalan avait tenu une très longue réunion la nuit dernière pour sceller l'avenir du technicien et les solutions existantes pour le remplacer. Comment pourrait-on interpréter le choix de son remplaçant là où des profils plus huppés étaient pressentis, notamment avec un certain Thierry Henry, pourquoi pas, ou d'autres avec Xavi, mais qui s'est opposé à cela. Yacine, le coach Tollet, Alisson.
Moi, je ne comprends pas le choix de Setién. Hein. Je ne comprends pas du tout. Après, c'est une solution, je pense, d'urgence. Hein. On est au mois de janvier. Je ne sais pas ce qui s'est passé en interne au Barça. Certainement, l'influence de Messi et son lieutenant ont eu raison de Valverde. Parce que quand on fait le bilan de Valverde, de ses années barcelonaises, elles ne sont pas aussi catastrophiques qu'on le veuille.
Non, cette année, mais les années précédentes quand même. Champion, ça a fait mal. Après, c'est vrai que le timing, moi, je n'ai pas compris. C'est vrai que
remontada ou pas. Il a gagné deux Ligas avec Barcelone, donc son bilan n'est pas si catastrophique que ça. Je pense que on a fait sortir que sa philosophie de jeu ne correspondait pas du tout à celle prônée par le Barça. Ça n'empêche que je comprends pas comment il a pu gagner.
Hier, tu nous disais que d'autres joueurs tels que Thierry Henry ont encore des cas d'or.
Oui, mais après Valverde en place, il était deuxième, voire troisième, voire quatrième de la Liga espagnole, on va dire, pour un club comme le Barça, c'est catastrophique. Il est en tête du championnat espagnol, il est qualifié en Ligue des Champions, il est qualifié en Coupe d'Espagne, et il peut tout gagner cette saison.
Perdu un titre.
Ouais.
Oui, mais c'est la Coupe d'Espagne.
Ouais, c'est
bien de vous rappeler. Mais c'est quelque chose quand même.
Mais justement,
ailleurs.
Lui, il est illégitime de jouer cette Super Coupe d'Espagne. On a créé tout un tralala, on a délocalisé encore en Arabie Saoudite pour faire des demi-finales alors qu'à l'origine la Super Coupe d'Espagne se joue entre le champion d'Espagne et le vainqueur de la coupe. Franchement, est-ce une bonne décision pour le Barça?
Ouais.
Pour moi, c'est
alors Alisson.
Je suis sceptique.
Et toi?
C'est pas tant sur un plan comptable que Ernesto Valverde a été démis de ses fonctions.
Oui.
C'est plutôt sur un plan de jeu plutôt. On reproche à Ernesto Valverde que le Barça n'était plus le Barça, même si ça fait un moment que le Barça n'est plus le Barça, mais là c'était criant quand même. C'est très pauvre dans le jeu.
On les a perdus.
C'est très très pauvre dans le jeu. Défensivement, c'est très très friable quand même le Barça, même si Ter Stegen est magnifique. Et là, c'est les saisons précédentes, on avait vraiment Lionel Messi, c'était vraiment l'arbre qui cachait la forêt de FC Barcelone. Si on enlève Messi au Barça, c'est une catastrophe d'un point de vue comptable.
Alisson, je pense, c'est juste infusible. Quand on perd deux joueurs de la trempe de Iniesta et Xavi Hernandez. Je pense que le problème, c'était là.
Mais bien sûr, mais c'est quand même...
Ils n'ont jamais su les renouveler.
Ils n'ont jamais su les renouveler, mais on parle quand même du FC Barcelone. Donc, qu'on perde deux grands joueurs, deux grosses entités, je suis d'accord. Mais quand on voit le FC Barcelone, le jeu qu'ils proposaient, le FC Barcelone, c'était quand même très, très pauvre. très très pauvre. On l'a vu encore en Supercoupe d'Espagne. Hein. C'était un Barça quand même malmené. C'est un Barça qui a du mal en championnat. C'est un Barça qui balbutie son football.
C'est pas la faute à Valverde. C'est un cycle qui se termine pour le.
C'est peut-être pas la faute de Valverde, mais c'est le premier rempart. C'est ça. Oui. C'est le premier rempart et c'est toujours le premier qu'on met en porte-à-faux. C'est toujours le coach. Malheureusement. Donc là, ça a été le cas. Mais question timing, c'est vrai que c'est un peu incompréhensible hein, parce que c'est un peu un cafouillis. Je pense que le Barça pensait être sûr d'avoir Xavi. Et donc c'est pour ça qu'ils ont limogé Ernesto Valverde aussi précipitamment.
Je pense que c'était pas aussi sûr que ça parce que s'ils étaient sûrs et Xavi, il serait déjà avec.
Parce qu'il y a eu des discussions au préalable et Xavi était plutôt favorable jusque là, mais il n'était pas favorable. Je pense qu'il y a eu une incompréhension. Il n'était pas favorable pour là tout de suite maintenant. Peut-être pour la saison prochaine ou la saison d'après, mais là tout de suite maintenant, Xavi n'était pas favorable. Et ça s'est justifié.
C'est intelligent de sa part.
Et c'est tout à fait intelligent de sa part.
Xavi va pas faire une demi-saison.
Mais il a bien raison aussi.
Avec des joueurs qu'il n'a pas choisi.
Bien sûr.
Il a besoin du temps, il a besoin de préparation.
Et il sait bien, Yacine.
Ah oui.
Le coach de Tolé concernant c'est Blaugrana.
Et puis il a surtout besoin d'expérience.
Barcelone, de Léo Messi et d'Antoine Griezmann.
Ouais. Bah,
alors
écoute, oui, bah, c'est vrai que ce qui est particulier, c'est que tu limoges l'entraîneur au mois de janvier. Tu limoges pas, tu sais, à la trêve hivernale. Alors qu'il est premier, on peut dire ce qu'on veut, il est quand même leader et le Barça est en huitième de finale de la Ligue des Champions. Maintenant, il a toujours été décrit en termes de jeu. C'est vrai qu'on est tellement exigeant après avoir connu la période 2008-2012 de Guardiola, avec notamment Iniesta, Xavi, Messi, les véritables symboles de ce Barça-là. Et c'est vrai qu'il prône pas ce jeu-là. Maintenant, pour parler un petit peu de ce nouvel entraîneur, il s'avère que c'est pas un nom connu. Il est connu du monde du football, mais
ouais.
c'est pas un grand nom pour nous. Maintenant, c'est quelqu'un qui a toujours prôné le jeu du Barça partout où il est.
Un fan du Barça.
Où il est passé,
fan du Barça,
notamment.
Mais c'est un ancien joueur du Real de Madrid.
Fan du Barça quand même.
Ancien joueur de l'Atlético.
Real de Madrid.
Il a toujours prôné le jeu, le beau jeu, comme le veut le Barça.
Et
il
avait
anecdote, il a même dit une fois à Johan Cruyff, c'est lui hein, qui a instauré ce jeu-là, qui était prêt à se couper un petit doigt pour évoluer sous ses ordres.
Quand même.
Qui a remporté la première Ligue des Champions du FC Barcelone en 92.
Ah,
donc son style de jeu est reconnu d'un point de vue local, en Espagne, par toute la presse, par les joueurs même du Barça. Donc il s'avère que c'est un des profils qui se rapproche le plus de ce que veut le peuple barcelonais.
Totalement.
En termes de jeu, il a été notamment critiqué, je crois, la saison dernière, lors d'une rencontre perdue 3-0.
Pour avoir demandé le maillot.
Voilà, contre une petite équipe, disant, contre une petite équipe qui le chambrait pour avoir prôné le beau jeu. Il disait, je préfère, moi, perdre en jouant bien que, qu'avoir le jeu qu'avait prôné l'adversaire. Bref, en tout cas, il a l'ADN, il a ce qu'attend le FC Barcelone.
Sur le plan théorique, c'est ce qu'on avait dit de Valverde quand il est arrivé au Barça.
Aussi.
En tout cas, où ça? Mais il évolue. Et
Valverde, il est arrivé quand même avec.
Il a prôné ce jeu-là, lui.
Bien sûr, on disait que c'était le profil idoine pour remplacer celui qui se rapprochait le plus de Guardiola. Aujourd'hui, deux ans et demi après, on se retrouve à dire que c'est le peuple barcelonais revendique le départ de Valverde. Lui, au moins, il est parti avec deux titres. On va voir, est-ce que Sassien pourrait mener...
Bien sûr, mais on sait que la qualité du jeu au Barça, c'est plus que culturel, c'est extrêmement important. Donc, en tout cas, lui, il arrive avec cette étiquette-là. Est-ce que ça sera suffisant?
Ouais.
Ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, on a envie de retrouver, en tout cas, ce...
Le grand Barcelone,
ce
quoi.
Ce beau jeu, voilà, en termes
ouais.
de jeu.
Les grands soirs d'Europe, alors, du côté du New Camp. Et ailleurs.
Le beau jeu.
Oui, Yacine.
Le grand jeu, ce sont les... très très bons joueurs qui le font.
Mais si tu n'as pas ils ont les joueurs, le FC Barcelone.
Ce sont des joueurs, surtout c'est un comportement bien bien précis. C'est quand c'est les joueurs dépositaires du jeu.
Bien sûr,
c'est milieu
mais,
de terrain.
Mais il y a l'intelligence du jeu. Il y a les joueurs qu'il faut pour prôner le beau jeu.
Tu parles de joueurs aussi, mais Valverde n'avait plus le soutien de ses joueurs
hein,
et des cadres comme Piqué. Exactement, des cadres comme Piqué. On disait même aussi qu'il n'avait pas la poigne et qu'il n'arrivait pas à tenir tête à ces gros joueurs du FC Barcelone. Donc ça se ressent forcément. forcément sur le terrain. Quand on voit les prestations de Piqué, qui est complètement à côté de la plaque, mais qui à côté de ça fait des déclarations rocambolesques dans la presse, tout ça, ça crée une atmosphère très tendue et qu'on retrouve tout à fait sur le terrain du FC Barcelone.
Je pense que moi,
on termine avec toi concernant le Barcelone.
J'étais le président de Barcelone. Il y a des joueurs que je vais sanctionner, c'est pas l'entraîneur que je vais sanctionner.
Ouais, totalement. Mais alors, après,
c'est difficile de changer 11 joueurs, mais c'est plus facile de changer un entraîneur.
On passe à l'invité de ce soir.
Time Sport.
Et oui, après une chute lors de la troisième étape de ce Dakar 2020, Xavier de Soultré a été contraint à l'abandon le lendemain alors qu'il occupait quand même la 10e place au classement général. Opéré avec succès du poignet, nerf médian a été partiellement coupé, il faut le rappeler, jeudi dernier à Paris. Xavier de Soultré observe une période de repos et d'immobilisation, on l'espère rapidement. Bonsoir Xavier, comment allez-vous ?
Bonsoir, eh ben, ça va très bien.
Et justement, Xavier, on va commencer cette fabuleuse interview avec vous. Suite à votre performance de l'année dernière, une victoire d'étape et, on le rappelle, sixième au classement général. Comment vivez-vous cet abandon tout de même ?
Eh ben, c'est super difficile à accepter parce que j'avais beaucoup travaillé suite à ma sixième place l'année dernière, qui était un bon résultat, mais très frustrant parce que je voulais gagner. Et je me suis remis en question toute l'année pour être le meilleur possible et j'arrivais prêt, et pas serein, mais en pleine possession de mes moyens. Et malheureusement, ça s'est arrêté sur une chute toute bête, quoi.
Justement, chute toute bête. Mais on devrait être préparé à cela, parce que des fois, on peut aller à 80, à 100 km/h, que ce soit sur des dunes ou même après sur des spéciales telles qu'on peut retrouver sur des tout autre rallye. Cette chute, elle est intervenue quand même entre 5 et 20 km/h. Comme quoi, il faut être assez vigilant, Xavier, il faut le rappeler.
On va parfois, même plus vite que ça, on va parfois à 180, ouais. presque tous les jours.
Ouais, je ne voulais pas le dire, en fait. C'est pour ça.
À 170, 180, c'est très dangereux, on le sait. Et là, j'ai fait une chute à 5 km/h. Attrapant, j'ai posé la moto, en fait, j'ai perdu, glissé avec la roue avant. La moto, et comme on fait des chutes en vélo, et trottiner un peu, et en me retenant pour pas tomber, justement, et ben, je me suis coupé sur des cailloux, mais vraiment, je me dis que c'est tellement bête et tellement anodin et tellement pas de chance que bah, si ça devait arriver, c'est que c'était écrit, c'est que ça devait arriver.
Bien sûr. Il y a une pression qui est forte auprès de des paddocks, si on peut l'appeler comme ça, de toute la caravane, quoi, avec ses pilotes, que ça soit en camion, en voiture et même en moto, parce que c'est vrai que le Paris-Dakar quand même a vu pas mal de personnes y laisser leur vie, quoi.
Il y a une pression importante de la part des constructeurs parce que c'est un gros investissement. C'est un gros investissement financier du groupe, du groupe Yamaha pour nous, par exemple. Il y a une pression aussi un petit peu insidieuse et qu'on se met, nous, mais avec les réseaux sociaux, avec Facebook, Instagram, on veut donner du grain à moudre et satisfaire les gens qui nous suivent. Et ça, c'est un petit peu un piège dans lequel on peut tomber. Finalement, on veut être le meilleur et on espère l'être. Et les gens qui nous suivent et qui nous aiment bien espèrent ça aussi. Et on veut être à la hauteur de leurs espoirs.
Ouais.
On est un peu parfois piégés nous-mêmes.
Justement, cette année, Yamaha, votre écurie, on le rappelle, qui espérait une 10e victoire sur le Dakar, perd tout de même 2 pilotes en l'espace de 4 jours.
C'est ça, les 2 pilotes de pointe, on est out de la course au bout du 4e jour. C'est difficile à accepter, mais voilà, quelquelqu'un qui se prépare pour un 100 mètres aux Jeux Olympiques peut aussi faire un faux départ ou pas être qualifié pour la finale. C'est le sport, malheureusement, et puis c'est ça qui rend la chose aussi belle et aussi gratifiante quand on arrive à gagner des étapes ou des courses. Mais c'est une course très très difficile à gagner.
Une réaction avec Yacine Bouali, Xavier.
Ouais, bonsoir Xavier.
Bonsoir.
L'année passée, vous avez gagné une étape.
Oui.
Et qu'est-ce qui diverge ou qui diffère par rapport à l'année passée, le Paris-Dakar était en Amérique latine, cette année le Paris-Dakar est en Asie. Et est-ce que les parcours se ressemblent ?
L'année dernière, on était au Pérou, 100% au Pérou, et cette année, on est 100% en Arabie Saoudite, qui est un nouveau pays ouvert au tourisme depuis peu, et qui est un pays magnifique. Des paysages incroyables qu'on ne connaissait pas. Et vraiment, c'est moins de grandes dunes. En Pérou, on a eu énormément de grandes dunes. Et là, c'est des cailloux, des pistes, des vallées. C'est très, très varié. Vraiment, on ne s'attendait pas à un pays aussi beau.
C'est, je parlais pas de la beauté des paysages, je parlais des pistes. Alors, les difficultés pour un conducteur de moto, c'est certainement la piste, les pistes, c'est-à-dire on fait pas la même course quand on est au Pérou et quand on est en Arabie Saoudite. On n'adopte pas la même façon de conduire.
Non, exactement. Et la grande différence, surtout, c'est que c'est pas la même personne qui est à la tête du Dakar. Et la personne qui a repris la direction du Dakar, c'est un ancien motard qui aime la navigation. Et on a des nouvelles règles. Par exemple, le roadbook est distribué un jour sur deux le matin.
Mmh. Ouais.
Ça, c'est notre feuille de route.
En fait, bien sûr.
Notre feuille de route qui nous dit tourner à droite, tourner à gauche. Et ça, on l'a d'habitude. On est habitué à la voir la veille pour le lendemain. Donc, on y passait la nuit pour le mémoriser, le préparer au mieux.
Ouais.
Cette année, on l'a le matin. Donc, il faut.
C'est plus compliqué.
C'est plus compliqué. Il faut vraiment interpréter.
Parce que ça, c'est des choses que les gens qui regardent un rallye, qui forcément, qui comprennent pas, surtout quand on fait une course dans le désert. C'est-à-dire que c'est une chose très importante pour vous, pour pouvoir repérer c'est-à-dire faire vos repères pour la course.
Sur notre moto, on a un compteur kilométrique et une boussole. Et, feuille papier, ce rouleau de papier qui déroule et qui nous donne les indications. Par exemple, au kilomètre 301.4. Quitter la piste au cap 250. Donc là, il faut prendre la boussole, le cap 250, et suivre pendant 2-3 km ce cap. Et c'est comme en bateau parfois. Il y a souvent, quand il n'y a pas de piste, et ben il faut être très précis pour aller au bon endroit. Alors il faut aller vite et au bon endroit.
C'est sûr, Xavier de Soultré, justement. Et des fois, on a on a des problèmes avec sa boussole, justement. Elle nous donne la mauvaise direction, comme un peu le GPS dans les grandes villes, quoi. Ça vous arrive ?
Exactement.
Et ça vous est déjà arrivé ?
C'est comme avec un GPS en voiture. Si jamais on prend pas à droite au moment où ils nous le disent, après tout est faussé. Donc il faut essayer de récupérer le. Ils nous disent parfois les GPS retourner sur l'itinéraire et c'est ça, exactement. Mais sauf que là, parfois, tout se ressemble. Il n'y a pas beaucoup de points de repère. Et si on fait le cap 250 au lieu de faire le cap 253, au bout de 3 km par exemple, on ne sera pas au bon endroit. Donc il faut être très précis.
Merci.
C'est pas difficile, mais il faut être précis.
Merci Xavier de Soultré, on le rappelle, participant pilote moto Yamaha, ce Dakar 2020. On espère un prompt rétablissement à vous et aussi de vous revoir sur les rallyes, quoi. Oui, Yacine.
C'est juste parce que faut savoir.
Yacine, il voulait enchaîner rapide.
Bah oui, chaque course, il y a l'aspect pécunier. Est-ce que le fait aujourd'hui que vous avez abandonné, est-ce que vous, en tant que pilote, vous perdez de l'argent ou votre écurie perd de l'argent ?
Rapidement, il nous reste 15 secondes à peu près.
L'écurie investit beaucoup pour qu'on ait des retours médiatiques. Malheureusement, on n'a fait que pas suffisamment de jours pour rentabiliser l'investissement. Mais c'est un investissement à long terme de Yamaha et on va se rattraper l'année prochaine.
Merci. Vous restez avec nous, à de suite.
TimeSport revient dans un instant. Beber FM, 19h-20h. TimeSport avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beber FM, 19h-20h, votre quotidienne sportive. Et oui, TimeSport du lundi au vendredi. Pour m'accompagner avec moi ce soir, on est avec Alison Nkunku, le coach Tolé et Yacine Bouali. On va s'attarder sur le basketball avec Tony Parker.
TimeSport, la victoire.
Eh oui, justement, il y a une victoire aussi pour lui, et on verra aussi en Bundesliga. Et le patron de l'ASVEL ne cache pas son ambition, il dresse un bilan positif de cette première partie de saison, notamment sur la scène européenne où le club est en train de réussir son retour en Euroleague. Quel avenir prédisez-vous à cet homme qui sait ce qu'il veut ? Toi, tout comme toi, le coach Tolé.
Oui, bien sûr, c'est ce qu'il veut. T'as eu la carrière qu'il a fait ?
Bien sûr, une idole peut-être pour toi et pour certains aussi.
Oui, mais c'est un vrai exemple. Après là, ce qu'il a envie de mettre en place à l'ASVEL, je trouve ça bien. L'envie de révolutionner. Et j'espère qu'il va apporter vraiment un nouveau souffle au basket français. Lui-même déjà en tant que joueur a marqué les esprits sur les 10 dernières saisons. Maintenant, là, ce qu'il met en place à l'ASVEL, alors qu'il s'attendait pas forcément à avoir d'aussi bons résultats en Euroleague, est plutôt satisfaisant, mais voilà, il a envie d'aller très haut et t'as besoin d'avoir ses sportifs. C'est aussi un exemple parce que c'est un sportif de très très haut niveau qui a marqué les esprits, on part de la NBA, et qui derrière a su trouver déjà sa voie et rebondir. Enfin, on le verra des années passées, mais c'est un bel exemple. Ce serait bien d'en voir un petit peu plus.
Ouais.
Voilà.
Ouais, c'est Allez, ça. Il veut apporter aussi cet esprit un peu NBA en France, même s'il y a eu une première partie de championnat assez compliquée sur le plan européen. Ça se passe beaucoup mieux. Ils ont connu leur première victoire et là on attend du côté de Fenerbahçe. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est bien embarqué hein, pour les hommes de Tony Parker et il va aller plus haut. Il met des choses en place. Il s'en donne les moyens. On verra ce qui va se passer, mais pour l'instant, c'est bien parti.
Yacine, on termine avec toi concernant Tony Parker et l'ASVEL, son club.
C'est trop tôt pour
juger.
C'est trop tôt pour juger son bilan.
Ouais.
Il faut savoir que le basket, c'est à l'image du football. Hein. C'est l'argent qui parle. Aujourd'hui, lui, à son niveau, à l'ASVEL, il n'a pas les moyens de mettre ce que bien faire les Fenerbahçe ou Barcelone. Ou d'autres clubs.
Pour le moment.
Il est en train de rationaliser son investissement.
Ouais.
Et après, voilà, pour attirer quand on parle du NBA, si on veut ramener des grands joueurs, il faut sortir les gros chèques. Donc, est-ce que les partenaires économiques en France, ou les droits, parce que c'est ce qui fait aussi augmenter la trésorerie des clubs, ce sont les droits télé. Aujourd'hui, est-ce que le basket français est très attractif pour pouvoir convaincre des grosses machines à sous pour venir soutenir ce championnat? Donc c'est moi je suis sceptique, même si la bonne volonté de Tony Parker est à souligner, mais rivaliser avec les grandes d'Europe, ça va être compliqué.
On passe justement à ce championnat allemand qui est la Bundesliga, a annoncé ce lundi dans un communiqué avoir conclu un partenariat, messieurs dames, avec Amazon Web Services permettant de fournir aux téléspectateurs des matchs de première et de deuxième division allemande ainsi que de nombreuses statistiques en temps réel. Yacine, c'est assez fou. Une nouvelle technologie basée sur l'analyse de plus de 10 000 matchs qui permettra également de faire des prévisions sur l'évolution possible du score ainsi que sur le résultat final d'une rencontre. La Bundesliga est le premier donc championnat à lancer une telle collaboration avec la filiale Amazon. On n'arrête pas le progrès, mais là, très sérieuse et structurée, Bundesliga cède aux sirènes de cette consommation et de cet accès, Claude, au football de plus en plus dématérialisé. Est-ce si étonnant au bout du compte? Eh oui, Alisson, eh oui, Claude. Est-ce si étonnant? On va arriver après à avoir toutes ces grandes multinationales, ces GAFA, quoi, comme on dit.
Bundesliga, tiens, un championnat dont on connaît quand même assez mal.
Ne critique pas trop, hein, parce que Nassim m'écoute ce soir.
Non, j'ai pas les critiquer. Justement, on connaît assez mal ce football, même si ça reste nos voisins. Après, alors moi je suis curieux de voir un petit peu comment ils vont mettre en place leur.
À chaque fois, on en parle, on en critique, mais on dirait que c'est bien ficelé, quoi. Et ça sera bien une idée.
Ouais, faut.
Non, vraiment.
Faut voir. Honnêtement, je demande à voir. C'est vrai que c'est quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas.
Ouais. À voir.
Est-ce qu'il n'y a pas une affiliation avec les paris sportifs?
Bon, exactement. Ben oui.
Il y a une affiliation avec les paris sportifs. Hein. Ça fera le plus grand bonheur de tous les sites sportifs.
Exactement, il y a une connexion tout de suite.
Je pense que le vrai fond de tout ça, c'est vraiment cet aspect-là. On parle de l'aspect...
Fournir aux parieurs un moyen de pouvoir jouer davantage,
De pouvoir jouer davantage, de pouvoir un tout petit peu peut-être anticiper un peu plus avec toutes ces statistiques en temps réel. Ça va donner l'impression de maîtriser un peu plus le match et le cours du jeu et l'avancée du match pour pouvoir mieux parier. Moi, la solution ou en tout cas l'utilité instantanément, c'est celle que je vois. Après, pour l'évolution, je sais pas, je suis très sceptique. Je demande à voir, honnêtement, pour rien vous cacher, j'ai pas trop saisi.
Il faut savoir que Amazon, avant d'arriver à négocier avec la fédération allemande de football, ils sont passés par plusieurs fédérations. Il faut savoir que c'est pas le championnat le plus attractif et certainement ils ont négocié avec la première ligue, ils ont négocié avec les Italiens, avec les Espagnols. Et c'est comme ces fédérations, elles se portent bien sur le plan financier. Je pense que c'est les Allemands, si on connaît leurs difficultés, c'est-à-dire c'est les deux voire trois dernières années. Je pense qu'Amazon vient à la ressecousse. Ce qu'ils proposent aujourd'hui, mais tu tues complètement le charme du football. Si le téléspectateur il est là et reçoit en temps réel toutes les statistiques, il va s'occuper de regarder les statistiques ou de regarder le match. Donc là, on va faire le jeu des gens qui parient. C'est ça. Voilà, c'est les parieurs. C'est eux qui vont trouver un petit peu le, parce qu'ils sont très très nombreux, parce que on fait pas une offre comme ça tout en sachant que derrière il y a énormément de personnes qui parient. Donc Amazon, c'est la proposition qu'ils vont faire aux téléspectateurs n'est pas gratuite. Donc derrière il y a des sous à gagner. Je pense qu'ils vont se rendre compte vite. Hein, l'expérience, je sais pas combien de temps elle va durer, mais ça va dénaturer un petit peu encore plus le football. Il y a la VAR déjà. Et la VAR aussi a des connexions un peu partout. Et maintenant, il y a cette histoire de statistiques en temps réel. Je pense que le football, même si on a envie de le moderniser, mais il perd de plus en plus de son charme parce que il faut cet inconnu quand on regarde le match. On a besoin aussi de faire sa propre analyse, ses propres statistiques. C'est là où on suit le football. Mais si on reçoit tout, je pense que quelque part, l'envie de regarder un match, pour les vrais amateurs de football, ils vont se poser des questions.
C'est ça perd un peu de son charme. On arrive un peu plus dans cette technicité hein, du football, plus forcément dans l'émotion
et, y a plus d'émotion,
et dans l'émoi du football. C'est vraiment là, on regarde un match de football, mais on est plongé perpétuellement dans tout ce qui est financier. On parlait de la VAR, on parle encore du contrat d'Amazon qu'ils ont déjà fait avec la Premier League, avec la Bundesliga. Donc on est pleinement dans football business, encore une fois, et on va y arriver de plus en plus.
Ah, tu vas le tuer, le football.
Plus en plus. Tuer le football, on va tuer le match en soi, en fait. C'est
l'instinct.
Ça. C'est ça, l'instinct.
C'est les grosses machines, les fonds de conscience, ils arrivent à gérer le football. Alors, je pense qu'il va échapper vraiment aux amoureux de ce beau jeu.
On va s'attarder cette fois-ci sur le football anglais avec la Premier League.
Time Sport. Le duel. Le duel.
Eh oui, ça va te faire plaisir peut-être, Yacine, et aussi à Alisson. Manchester City et Sergio Aguero écrasent donc Aston Villa et passent devant Leicester en démonstration totale 6-1 dimanche. Et oui, les Citizens ont repris la place, excusez-moi, de Dauphin de Liverpool à Leicester le 12 janvier 2020. Restera un jour historique peut-être pour Sergio Aguero, le buteur argentin. Je le rappelle, auteur d'un triplé face à Aston Villa, ce dimanche est devenu le meilleur buteur étranger de la Premier League en dépassant la marque exceptionnelle de Thierry Henry. Je ne sais pas si tu le sais, ça, le coach Tolé, 175 buts. Et oui, donc à Aguero, on est maintenant à 177 en 9 saisons sous le maillot des Citizens. Est-il actuellement, d'une certaine manière, le meilleur numéro 9 de ce championnat anglais qui est la Premier League ? Yacine ?
Je pense que meilleur neuf de ce championnat, pour moi, non.
Oui.
Parce qu'il y a...
Tu mettrais qui, quoi?
Je mettrais Keane, de Tottenham. Hein, c'est...
Ah, Keane.
Ah, bah, oui.
Ah, toi, tu mettrais Harry Kane.
Kane, bien sûr. Bah oui. Après la prononciation Kane en anglais.
Ah, mais là, c'est un A.
Ouais. Malheureusement, moi, je suis kabyle, donc je prononce comme
je suis nul en anglais.
Comme les Allemands.
Il n'y a pas de problème.
Ouais, mais justement. On souligne la prestation de Canaguero, mais derrière, il y avait un immense Riyad Mahrez qui lui a servi des caviars, mon cher ami, avec un doublé. Ben oui, si on doit souligner, certes, pour la performance, il a dépassé Thierry Henry, mais comme tu l'as si bien dit, c'est sa 9e saison sous le maillot des Citizens. Donc en 9 saisons, il a marqué 177 buts, tu fais le calcul, je pense qu'il n'a pas marqué tant l'histoire.
Le ratio n'est pas énorme.
Le ratio n'est pas énorme, et encore, il va peut-être, il a encore 2 voire 3 autres saisons.
Après, il a été souvent blessé, Kunagou.
Oui, ben, justement, mais Henry, il n'a pas passé autant de temps à Arsenal, et il n'avait pas le même effectif. S'il avait le même effectif avec des joueurs de la trempe de Riyad Mahrez, et toute la et de Bruyne, je pense, un passeur
même,
comme
il avait quand même Wiltord, Pires, Bergkamp.
Ouais, mais
pour citer que Overmars,
Bergkamp,
c'est quand même pas mal pour des
Bergkamp,
joueurs.
Bergkamp, mais tu as cité d'autres noms, ils sont
champions du monde, champions d'Europe.
Ouais, mais ils ont pas
champion du monde, champion d'Europe. Pires, Wiltord, Overmars,
tu peux
une saison de première ligue.
Ouais, tu peux mettre Pires et Wiltord, ils arrivent pas à la cheville de Real Mahrez.
C'est
un autre débat. Et De Bruyne aujourd'hui, c'est un joueur incroyable, c'est exceptionnel. Ce qu'il peut faire, il peut servir des caviars tous les jours. Tu mets De Bruyne, Henry à la tête des Citizens. Je pense que Horry va finir la saison avec, avec même 55, voire 60 buts.
Ils ont fait quand même une saison invaincue, Arsenal. Hein.
Oui, mais je n'en doute pas un instant. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Tu es d'accord avec moi, coach Tollet?
Je ne parle pas de coach
Tollet. Ne me parle pas de Piras et Viltor. Ce sont des joueurs anodins.
Champion du monde.
Et ils étaient champions du monde et champions d'Europe parce qu'ils étaient derrière le roi Zidane. Il les a emmenés dans sa barque, tout simplement.
Non, tu peux pas dire ça.
Oui, légalisme.
En finale,
sur le club, ils étaient seuls.
Trezeguet qui marque sur un débordement de Pires. Il est encore FC Metz.
Et alors, mais il faut bien qu'il fasse un peu de travail quand même.
On va revenir avec Yacine, avec Alisson, c'est promis. Et le coach Tollé, le 01-53-48-3000 pour réagir avec nous. A de suite, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Time Sport, avec Bilal Nenman.
Et de retour avec Bilal Nenman, mais aussi les consultants de Beurre FM, Yacine Bouhali, notre grand reporter, le coach Tollet, et la ravissante Alisson Nkunku. Justement, Alisson, on va s'attarder avec toi face à Aston Villa. C'est vrai, il a été brillant, mais pas que. Il y avait Agüero, il y avait aussi Riyad Mahrez, le Fennec, mais pas que aussi. Il y avait, pourquoi pas, aussi Kevin De Bruyne, Alisson.
Oui.
Allez, on va enchaîner, on va te laisser.
Il y avait tout le monde,
quoi.
Il y avait Guardiola sur le banc.
Contre Aston Villa, vraiment, cette équipe de Manchester City a surclassé, a survolé le match. Hein. Et l'équipe était en démonstration. Les joueurs, dont Riyad Mahrez.
Merci non, de préciser.
Il faut le
merci
dire comme ça, préciser. Tu es content un peu.
C'est toute l'Afrique qui est contente. Il voilà. Y a pas que moi. Hein.
Et on vraiment survolé le match. Et pour revenir sur Kun Agüero, certes, il a fait 9 saisons chez les Citizens, mais quand même, s'imposer de telle manière et marquer autant en première ligue, c'est pas donné à tout le monde. Donc quand même, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est un excellent joueur.
Ouais.
Même si son ratio, si on fait le ratio, n'est pas extraordinaire, c'est quand même très bien. Et c'est quand même extraordinaire ce qu'il a fait. Et marquer un triplé aussi au son dernier match, ça montre le talent du joueur.
C'est une moyenne de 18 buts par saison.
Faut le faire.
Le coach est Tollet.
Le
football anglais.
Ce qui lui manque à Agüero, c'est à l'échelle internationale. C'est-à-dire qu'il a toujours été extrêmement efficace en première ligue. Par contre, c'est vrai qu'on a toujours attendu de lui en Coupe d'Europe qu'il fasse vraiment des différences. En Coupe du Monde aussi. Boudé au dernier mondial, etc. Ça a toujours été un peu mitigé, alors qu'on le voit être relativement efficace tout au long de la saison. Dans les moments vraiment clés du très haut niveau, malheureusement, c'est là où il lui manque vraiment ce gratin pour faire partie vraiment des tout meilleurs. Ça reste comme un des meilleurs attaquants du monde.
C'est pas faux, justement.
Un des meilleurs, c'est un peu.
Oh non.
Quand tu vois le nombre d'attaquants.
Oh, quand même, Yacine.
Même s'il est resté 9 saisons, d'Angleterre, on va compter des attaquants et dans la 10e, voire 12e place.
Non,
tu me dis Mané, un des meilleurs attaquants du monde, je lui dis oui.
Dernière rubrique de cette émission.
C'est pas un attaquant Mané.
C'est parti.
C'est un vrai attaquant Mané.
C'est un milieu offensif.
C'est un vrai attaquant Mané.
Alors qu'Agüero, c'est un vrai attaquant.
On le met avant son Ultra City, Mané va finir la saison avec 40 buts chaque saison.
Non, mon cher ami. Il a besoin d'espace, il a besoin de créer, il a besoin de faire des pelles, il est droit devant les buts, c'est un joueur de Maradona, exactement.
On peut passer à la dernière partie.
Mais bien sûr, avec plaisir.
Time Sport, le mode pressing.
Moi, je sais pas, j'ai des supporters monégasques et des Parisiens qui me bombardent de messages en me disant, mais oui, Yacine et peut-être le coach ont raison, mais nous, on veut parler du match de demain qui opposera l'AS Monaco au Paris Saint-Germain. Match en retard de cette fameuse Ligue 1 Conforama. Quelques petites infos aussi à rappeler. Franck Passy a été nommé entraîneur de Niort, 18e de Ligue 2. Il débarque aussi avec Thomas Fernandez comme adjoint. Le défenseur brésilien Marquinhos a prolongé hier son contrat avec que le Paris Saint-Germain est désormais lié au club jusqu'en 2024.
Il ne veut pas être dans un grand club, il reste au PSG.
Le PSG rêve en plus grand et c'est un grand club.
L'information a été donnée hier sur le plateau quand même.
Ouais. Mais tu ne peux pas dire ça. Alors on va s'attarder justement à ce Monaco-PSG vivement demain pour le deuxième acte après le sublime match contre le match nul entre le PSG et Monaco, 3-3, on le rappelle, dimanche soir, du côté du Parc des Princes. Les deux clubs se retrouve, Yacine, dès mercredi 21h au stade Louis II en Principauté Monégasque, en match en retard de cette fameuse 15e journée de Ligue 1 Conforama. Une rencontre qui ne manquera pas d'intérêt. 6 buts, 29 tirs, 13 pour le Paris Saint-Germain, 16 pour Monaco. Du rythme, des joueurs de classe internationale, tout comme Neymar, Wissam Ben Yedder ou encore Slimani. Voilà, je tiens à le rappeler. Oui. Il fallait le dire. Yannis aura compris. Les 45 500 spectateurs, j'allais dire téléspectateurs, du Parc des Princes ont-ils assisté ce dimanche soir au plus beau match de la saison en Ligue 1 Conforama, mais aussi deuxième test en trois jours pour Paris. Monaco, Alisson surfera-t-il encore sur l'effet Moreno, fraîchement élu? Ce match en retard ne manquera pas d'intérêt peut-être.
Ça manquera pas d'intérêt, c'est sûr, en tout cas, hein, vu la prestation des Monégasques, on les attendait pas là.
Assez fatidique, hein, pour le Paris Saint-Germain.
Exactement.
Justement.
On les attendait pas là, et je pense qu'eux-mêmes ne s'attendaient pas à ce scénario de match, hein, quand on a les quatre fantastiques, en tout cas les 4-10 fantastiques devant. On s'attend à prendre un tarif en Ligue 1. Cette saison, mais là l'AS Monaco a plus que regardé le Paris Saint-Germain dans les yeux, hein. Ben Yedder a fait un match extraordinaire, donc là pour le match demain, même si le système de jeu de Paris devrait un petit peu changer, on assistera à un beau match, et justement ils peuvent rester sur cette dynamique pour continuer et pourquoi pas aller chercher une victoire qui leur permettra quand même de si je ne m'abuse remonter dans le classement et remonter à la 4e place qualificative pour l'Europa League et à être à 3 points de Rennes, donc accrocher Rennes et pourquoi pas en fin de saison monter sur le podium.
Ouais, le coach de Tollet.
C'est un match qui arrive à un tournant.
C'est monégasque, ouais.
C'est un tournant déjà
pour le Paris Saint-Germain.
Déjà pour l'AS Monaco surtout. Pour l'AS Monaco dans la mesure où beaucoup l'ont souvent signalé, Monaco est en tout cas pour moi la meilleure équipe française derrière le Paris Saint-Germain en termes d'effectifs. Et c'est vrai que, alors certes, il y a quatre fantastiques, mais il y en a qu'un qui a brillé, en l'occurrence Neymar, et heureusement qu'il était là dimanche soir. Mais quand tu vois Golovin, quand tu vois Ben Yedder, quand tu vois Gelson Martins, Slimani qui était sur le banc, Keita Baldé, ça te montre quand même le potentiel énorme qu'a Monaco. Alors c'est vrai que défensivement, ça a été longtemps décrié, quoique là, ils ont pas pris la valise qu'on entendait il y a encore quelques semaines de la part du Paris Saint-Germain. On est plus proche à un moment même du 3-1 pour l'AS Monaco. Donc eux, ça a dû leur donner, je pense, une certaine confiance. Et quand t'as des joueurs de cette qualité-là, attention, ça peut être ça peut lancer le sprint de Monaco dans cette deuxième partie de saison et il risque d'être très dangereux. Après, il va falloir le montrer sur la durée, être régulier dans les petits matchs aussi. Ils ont perdu beaucoup de points à ce niveau-là, mais c'est vrai que face au Paris Saint-Germain et le PSG n'a pas l'habitude d'avoir une adversité aussi importante en Ligue 1. Et là, lorsque tu commences à te retrouver avec des joueurs qui ont un peu d'intelligence de jeu, qui ont une qualité technique au-dessus de la moyenne, et ben là, ça devient plus compliqué. Et c'est là qu'on peut se poser la question sur ce Paris Saint-Germain capable au très haut niveau. De répondre présent. On parle bien sûr de la Ligue des Champions.
Et justement, c'est ça, on commence à basculer justement pour vers la Ligue des Champions et on est en train de se poser déjà des questions, on est en train de faire des flashbacks il y a une ou deux saisons et on est en train de se dire finalement le Paris Saint-Germain qu'on voit tout beau en Ligue 1 qui écrase tous ses adversaires, quand justement tu parlais Claude, quand il y a un peu d'adversité, d'intelligence de jeu, des joueurs qui jouent et des joueurs qui
de rivaliser, on se rend compte que c'est plus difficile
et de regarder le Paris Saint-Germain plus que dans les yeux, on se dit mais est-ce que ce Paris Saint-Germain qui au début de la saison, vu ses performances, on se dit qu'ils allaient gagner la Ligue des Champions haut la main, c'est ce qu'on entend.
Ça fait 10 ans qu'on se dit
exactement,
ça.
Exactement, mais là cette saison quand même il y a un peu plus de place pour eux.
Mais chaque année on dit ça.
Et là on se dit mais ouais. Est-ce que ça va pas coincer encore une fois? Est-ce qu'ils vont pas retomber dans leur travers? Est-ce que ça va pas coincer encore une fois? C'est ça qu'on est en train de se dire.
Justement, gare à toi. J'ai le signe de notre réalisateur, le coach Tollet. Hein. Gare à toi, attention. Yacine Bouali, sur Paris Saint-Germain. D'accord avec Alisson et le coach.
Après, je pense que le PSG, ils ne vont pas faire la même erreur deux fois.
Oui, ils vont prendre un grand club.
Ils vont prendre Monaco.
Ça va aller assez vite.
Parce qu'ils vont être attendus au tournant. Peut-être que tu l'as dit au départ, il y avait l'effet un peu Moreno. Après, on sait qu'il y a quelques tensions en interne à Monaco avec Slimani qui a émis, je pense, la discussion qu'il a eue avec son coach. Parce qu'il lui a dit que je ne pourrais pas compter sur toi tout le temps. Je ferai de toi, voilà, un joker.
Il veut le relancer, hein. à la pointe de l'attaque, hein,
peut-être,
apparemment.
Peut-être, parce qu'il pense qu'il n'a pas le choix. Il lui a montré qu'avec Benítez, ça se passait très, très, très bien. Donc, comme vous avez tous les deux dit, que la défense parisienne dit qu'ils ont affaire à des joueurs qui sont vraiment un peu de leur niveau, ils les mettent en difficulté. Donc, ça va être vraiment un match test, même si c'est le premier match de Monaco après. Même si c'est venu après le match de Montlhéry, c'est-à-dire le mois de janvier, c'est un peu compliqué après les fêtes et tout ça. Même si Neymar était quand même, il a fait quand même un immense match. Hein, on n'attendait pas peut-être à ce niveau-là. Mbappé n'était pas vraiment au top de il n'était pas dans son jour, hein, mais retrouver bah, Monaco, hein, il y a un club qu'il connaît très bien, un stade qu'il connaît très bien. Ça a été le théâtre de ses grands exploits avant d'arriver au Paris Saint-Germain. Je pense que c'est la doublette Neymar, Mbappé et Carbure. Ça va être très compliqué
pour Monaco de pouvoir tenir. C'est vrai qu'on a du mal à se dire quand même que Icardi qui a totalement disparu, Mbappé est difficile, Di Maria aussi. Ouais. Faire deux matchs de suite, quand même, ils vont être totalement.
En plus, le schéma tactique adopté par Tuchel, où il a mis pratiquement 4-4-2, c'est ça. 4, des fois même 5 mm-hmm. offensifs. Parce que, y compris. Le milieu de terrain italien
Verratti
quelques fois il se transforme même en joueur offensif,
mais c'est ça le problème, parce que déjà t'as Verratti et Gay qui sont pas de vrais numéros 6, donc tant qu'ils comprennent pas ça, mais le problème c'est qu'on veut pas comprendre ça au PSG. On te met des relayeurs qui sont capables par des moments de défendre, mais t'as 80% de possession de balle, et en Ligue 1 tu t'écrases tout, donc c'est beaucoup plus simple. Par contre, lorsque t'es amené à avoir une équipe comme tu l'as dit, comme on l'a dit, aussi performante que l'AS Monaco, et là défensivement ça devient très
du mal, ça coulissait mal.
Gay, c'est pas Thiago Motta, il peut pas être dans le même registre.
Mais encore, quand même.
Un profil différent, même si c'est lui qui est chargé de récupérer le plus de ballons. Verratti, même si c'est un récupérateur, mais il commet énormément de fautes. Hein, je pense qu'il
un classique, Verratti.
Ouais, c'est
quasiment un carton.
Là, je pense que ça va être un vrai tournant pour la suite, pas du championnat, parce que le championnat il est plié. Hein, mais pour jouer les places européennes entre Monaco, Lyon, voire Lille. Mais c'est surtout la suite pour le PSG. Donc, à condition,
je pense que l'animation va changer.
Thomas Tuchel l'a annoncé. Le 4-4-2 ne devrait pas être reconduit parce qu'on
a vu que c'était pas. Sinon.
On a vu que c'était pas possible. Et donc, son animation Cavani, va changer en tout cas.
Ou peut-être refaire monter Marquinhos pour apporter la solidité au milieu du terrain aussi, en configuration vraiment Coupe d'Europe.
C'est ça.
Exactement, c'est ce qu'il a toujours fait quand il est dans les affaires de gros cylindrés.
Exactement.
Il avait toujours besoin de mettre trois milieux, on va dire,
récupérateur,
même si sinon il mettait Marquinhos en sentinelle avec Gay
et Verratti
à gauche.
C'est ça.
Là, ça va être, il va jouer un petit peu aussi sa réputation et sa crédibilité. D'ailleurs,
s'il perd deux fois ou deux matchs nuls.
Bah bien sûr, s'il fait match nul au Parc et s'il perd à Monaco, je pense que.
Avant les séances européennes, justement, avec cette fameuse Champions League, comme je disais.
Ça va jaser en interne.
Ouais,
même un peu, on va dire, rendre sa position un peu fragile. Il va fragiliser sa position au sein du groupe du PSG. Donc je pense que Tuchel joue vraiment son avenir contre Monaco.
Ouais.
Son avenir, pas son avenir immédiat. Son avenir,
sur la saison quoi, sur son même, pour la prochaine saison.
À Paris, on attend toujours l'hiver, parce qu'au mois d'août, en septembre, octobre,
c'est après que ça coince.
On tape un grand message.
Malheureusement, on espère que le Paris Saint-Germain passera tranquillement face à Borussia.
Attention, après on dit ça, là on parle. Attention, le PSG a les moyens.
Est une grande équipe. Est loin devant en Ligue 1, Conforama.
Pour mieux la gagner avec des champions.
Totalement cette saison.
Bien sûr.
Est-ce qu'ils ont le mental pour le faire?
On restera confiant comme notre réalisateur de cette émission.
J'ai l'impression que vous ne regardez pas tous les championnats. Quand on voit le Real de Madrid, quand on voit City, quand on voit les autres grands clubs. On se pose la question, où se situe aujourd'hui le PSG quand on voit ses prestations.
Merci Alisson Nkunku et aussi Yacine Bouali et le coach Tolé de m'avoir accompagné. Mais vous aussi, toujours de plus en plus nombreuses et nombreux, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. Demain, mercredi, on parlera encore de ce match entre Monaco et le Paris Saint-Germain. 19h-20h, c'est l'horaire de votre émission sport sur l'antenne de Beurre FM. Sans oublier le dimanche avec Mohand et toute son équipe fou de sport. De 18h à 20h, la suite des programmes avec Morad et le Café des Artistes.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.